Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vingtaine de méthodes et des outils qui vont vous permettre d'accélérer une vente en B2B. Alors, c'est un article que j'ai rédigé pour le blog de Sparklane, hein, la solution de Sales Intelligence. Et en fait, dans cet article-là, j'ai insisté sur un fait qu'on voit régulièrement, c'est qu'en fait, en B2B, souvent le problème n'est pas forcément d'avoir plus de leads, mais souvent c'est plutôt d'avoir d'ailleurs des leads plus qualifiés. Mais le second problème qui arrive juste derrière, c'est d'arriver à faire tomber les affaires. En fait, dans le B2B, on a souvent pas mal d'affaires en cours. Le problème, c'est en fait d'accélérer le rythme des ventes parce que on a un devis qui est en cours, il y a un client qui va se décider, on sait que l'affaire va tomber, mais bon, elle tombe toujours pas. Donc en fait, je vais vous présenter un article en deux parties. La première partie qui va présenter 17 techniques de vente ou astuces, hein, on va dire, qui permettent en fait de décoincer une vente. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous présenter tout simplement des outils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc, on va jouer sur trois principaux leviers, hein. Tout d'abord, l'efficacité commerciale. Ensuite, les astuces de vente. Et troisièmement, tout simplement, les outils qui vont permettre d'aller plus loin dans la vente et surtout plus vite. Alors donc le portefeuille bien rempli, ça c'est quelque chose qui est intéressant, mais ce qui est compliqué à obtenir souvent, c'est le bon de commande signé par le client. Alors l'outil de base vraiment, c'est de se dire ok, à chaque étape du cycle de vente, comment je peux faire avancer le dossier? Alors ça, c'est un réflexe qu'on doit avoir véritablement à chaque fois qu'on est avec un client, c'est de dire ok, bon alors quelle est l'étape suivante? Comment est-ce qu'on fait? Comment on avance? Alors on se revoit quand? Quelle est une réunion? Quel est le plan d'action? Qu'est-ce qu'on peut vous donner pour que ça avance? Enfin bref, ce genre de questions-là doit être systématiquement posé à la fin des réunions avec le client. Parce qu'autrement, si vous ne dites rien, vous dites ok, alors quand est-ce qu'on se renvoie? Je vous laisse réfléchir et on se rappelle la semaine prochaine. Non. Il faut dire ok, d'accord. Bon, est-ce qu'on a attendu, répondu à vos attentes? Ok, d'accord. Bon, alors maintenant, comment on peut avancer? Est-ce que vous pouvez prendre la décision maintenant? Est-ce que vous avez besoin que je fasse une présentation à votre directeur? Est-ce que vous voulez qu'on se voit? Est-ce qu'il y a une autre personne que je dois voir? Etc. etc. Et là, c'est un petit peu orienter la vente et pas se laisser porter au gré du vent. Alors, souvent, en fait, il y a un truc qui marche bien aussi et j'utilise encore pas plus tard que hier. Je vous donnais un exemple. En fait, c'était une présentation qu'on a faite à un grand groupe, hein, vraiment très très grand groupe français, hein, on va dire des 20 premiers groupes français. Et donc, je lui fais une présentation, tac, enfin, on lui fait une présentation. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, le client est assez intéressé. Puis après, on arrive à la proposition commerciale, on arrive sur la proposition commerciale. Et là, le client répond par mail. Oui, ça nous intéresse, mais on pense avoir un prix plus intéressant. Bla 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 bla. Blablabla, le truc un petit peu habituel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Tout simplement, c'est proposer ce qu'on appelle une BATNA, c'est Better Alternative to No Agreement. C'est-à-dire qu'on va sortir une carte, un joker de son jeu. Et tout simplement, dans la négociation, on va sortir un truc qu'on n'a pas encore mis en place. Par exemple, là, dans ce cas-là, au lieu de parler de tiens, faut acheter la solution, ok, pas de souci. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un système de POC, hein, un proof of concept, un test en fait. Hein, et on va comme ça, pour un prix qui fait 10% du montant global, on va calculer en fait un run, en fait on va faire un essai, un test hein, sur un petit nombre de données et ça va vous permettre de tester non pas comme une solution que vous allez adopter tout de suite, mais tout simplement comme un premier test en fait, un premier pas qui est sans risque, qui peut fonctionner de manière totalement indépendante et après si vous voulez on pourra continuer. Donc ça c'est des trucs un petit peu joker qu'on doit sortir quand une affaire un petit peu coincée, qu'on sait pas quoi faire, et ben on change complètement et on propose autre chose qui n'a rien rien à voir, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau, un nouvel angle, ça peut être une solution de financement. Le mec vous dit c'est trop cher, et ok, pas de souci, je vous ai trouvé un financeur, regardez, au lieu de payer vos 20 000 euros d'entrée, et voilà, j'ai un financier qui va vous permettre de financer 500 euros par mois, et bien sûr, ce financement vous coûtera que X euros, etc. etc. Voilà, ça c'est des trucs assez simples. Alors, maintenant je reviens aux 17 techniques et astuces que vous pouvez utiliser pour décoincer une vente. Alors, le premier en fait, c'est tout simplement présenter une nouveauté. Alors, c'est le plus classique, hein. C'est ce qu'on voit régulièrement. C'est de présenter une nouveauté qui existe ou alors qui n'a pas encore été présentée, montrée et qui existe ou pas. Par exemple, en fait, moi ça m'est déjà arrivé. Bon, ok, on a un produit, d'accord, ok, voilà ce que vous avez. Et puis, regardez, attendez, on est en train de préparer un nouveau truc, voici une capture écran, voilà ce que vous pourrez avoir dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et en fait, le but, c'est de montrer un petit peu de la perspective, faire rêver le prospect sur une nouvelle version, une nouvelle fonctionnalité. Même ça m'est déjà arrivé de vendre une ancienne version et dire, ok, mais de toute façon, vous ferez un upgrade vers la nouvelle et vous l'aurez dans quelques mois. En plus, vous aurez le temps de vous faire un petit peu la main sur ce produit-là et après, vous aurez l'autre, etc., etc. Donc ça marche pas mal, présenter une nouveauté qui existe ou qui n'existe pas pour donner de la perspective. Alors, un petit conseil quand même, faites attention, le but non plus c'est pas d'aller montrer un truc que le client n'a pas besoin, parce que ça c'est un petit peu le défaut qu'ont certains vendeurs, ils vont en fait montrer un truc qui est pas encore dispo, qui va faire réfléchir le client ou qui est quelque chose qui est accessoire. Et il faut toujours faire en sorte que ce produit un petit peu secondaire soit valable pour l'ensemble des clients. C'est-à-dire que c'est pas juste un produit pour un client ou pour qui va intéresser 20% des clients. Il faut que cette fonctionnalité que vous allez sortir là, cette nouvelle version, cette nouvelle fonctionnalité, soit adaptée pour au moins 80% des clients. Donc si vous présentez comme ça une fonction qui fait 80% qui répond aux besoins de 80% des clients, et en particulier celui-là, là vous allez réussir, c'est important. Ne sortez pas un truc que personne n'utilise, donc il vous dira mais non, mais moi ça m'intéresse pas. Voilà, faites vraiment attention à ça, parce que ça peut être le piège de cette technique-là. L'outil numéro 2, la technique numéro 2, c'est faire une promotion produit et pas sur le prix. Parce que là, bien sûr, j'en parle pas, hein. Bien sûr, on peut toujours baisser son prix, faire une promo. Là, le but, en fait, c'est pas de faire une promo sur le prix, mais de proposer un bundle en proposant en fait un truc en plus que le produit initial. Alors, de préférence, il vaut mieux en fait proposer du service. Pourquoi en fait parce que tout simplement, avec du service, vous pouvez maîtriser vos coûts déjà, hein. D'une part, ça peut être du consulting, de la formation. Ça a une valeur qui est perçue, qui est beaucoup plus importante. Les journées de formation, ça vaut parfois 1000, 2000, 3000 euros. Puis c'est de l'accompagnement, c'est de l'aide. Dans le pire des cas, ce que vous faites, vous pouvez proposer du produit. Par exemple, ce qui marche bien, et c'est ce que j'ai déjà fait, c'est passer les clients en version premium. Attendez, oui, il n'y a pas de souci. Pour ce prix-là, non seulement vous avez le produit que vous voulez, mais en plus, je vous offre gratuitement pendant 1 an ou pendant 2 ans l'ensemble de la gamme. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste le produit, vous avez le pack complet, vous avez le bundle, vous avez les options, vous avez la version super premium, vous avez un accessoire, vous avez un support technique avancé, etc., etc. Et ça, c'est pas mal parce que ça évite en fait de proposer un rabais, de dévaloriser votre produit, et ça permet de sauvegarder votre prix. Alors bien sûr, il faut pas non plus donner des trucs qui ont trop de valeur, parce que si le client vous dit mais merde, pour un produit qui vaut 1000 euros, moi je vous file 2000 euros de remise, c'est qu'il y a un souci. Il faut bien sûr que ce soit proportionnel. L'autre intérêt de pouvoir faire de la remise sur produit ou du service, c'est que quand vous faites pas de remise sur le prix, le client va pas se dire attendez, il m'a fait une remise de 50 euros ce coup-ci par mois, à mon avis, si je négocie un peu, je pourrais avoir un petit truc en plus, etc., etc. Donc voilà, c'est ne pas faire une remise sur le prix, ça permettra vraiment de défendre son prix, parce que généralement, quand on baisse une fois le prix, les gens savent très bien qu'ils peuvent après rebaisser encore et encore une fois le prix. Donc la sauvegarde du prix est importante. Alors l'autre chose, ça je l'ai utilisé quelques fois, alors c'était pas forcément les trucs les plus courants que j'ai effectués, mais c'est tout simplement la visite surprise. Alors c'était pas moi qui étais un gros spécialiste, c'était un de mes collègues qui était vraiment fan de cette technique-là, de la visite surprise, et c'est vrai qu'il la maniait avec vraiment dextérité. C'est tout simplement en fait qu'il allait comme ça rencontrer des clients, je dirais pas au hasard, mais un petit peu comme ça à l'aventure. Et il disait voilà, tiens, je passe près de chez vous justement ce week-end, si vous voulez, je peux vous aider, ou je peux vous présenter notre solution, ou je peux faire ceci, je peux faire cela. Et ça, c'est vrai que c'est une technique qui marche pas mal, parce que le client, en fait, il n'aura pas de raison de vous refuser la visite. Le principe, en fait, c'est d'appeler le client, on va dire le matin pour l'après-midi, ou un truc comme ça, mais sans lui laisser un gros point de réflexion, parce qu'autrement, il va vous dire, non, mais je suis pas disponible. Donc, tout simplement, vous lui dites, je suis chez votre client, ou je suis dans la ville de Bidule, ou je passe près de chez vous, est-ce que ça vous dirait de qu'on se voit, je peux vous proposer de prendre un café, ou je peux vous inviter à déjeuner, ou quelque chose comme ça. Le but, en fait, c'est d'inviter la personne à se voir en one-to-one et discuter un petit peu en off. Ça permet parfois de mettre un peu de relationnel avec le client, ça permet aussi de savoir comment ça se passe, d'avoir un petit peu le off. Bref, c'est ce truc qui est pas mal. Alors, après, Je connaissais un commercial qui était un peu terrible là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait eu cette visite, on va dire un petit peu à l'improviste, où il proposait, ou alors lui, ce qu'il faisait, qui était vraiment intelligent, c'est-à-dire qu'il proposait en fait un rendez-vous, et il proposait généralement vers 11 h. Et donc il allait chez le client, il proposait de faire donc la réunion classique cette fois, hein. Après, il disait, bon, bah voilà, je vous invite après à déjeuner. Puis au retour, de manière très très maligne, il disait, bah attendez, bah, on peut prendre le café chez vous. Et donc, hop, il allait prendre le café chez le client, et il en profitait pour aller resserrer les paluches d'un peu tout le monde, le DG, machin. Ah, est-ce que tu pourrais me présenter le machin, le bidule, le truc chouette? Et lui, ça lui permettait comme ça de rentrer en contact avec les big boss et de se faire connaître. Et après, donc, il avait vraiment de ses entrées, il était connu, etc., etc. Donc ça peut être pas mal. La première, comme je vous disais, c'était la visite surprise. Donc on dit, bah, tiens, je suis dans le coin, ça voudrait que je passe. La deuxième chose, en fait, c'est d'aller dans à un rendez-vous client. Après, d'aller au culot et dire, tiens, bah, en fait, est-ce que vous pourriez me présenter votre DG, votre responsable des achats, votre ceci, votre cela? Ça, c'est un petit peu différent, c'est le pied dans la porte. La quatrième technique, c'est l'intervention du directeur commercial. Alors celle-là, elle est assez classique, hein. On le voit partout, par exemple dans la grande distribution, quand on va acheter des cuisines ou des choses comme ça. À chaque fois, systématiquement, en fait, ben, vous avez la technique de ben, « Attendez, moi je ne peux pas vous faire une remise, mais par contre, attendez, je vais appeler mon directeur commercial, je vais appeler le gérant du magasin, je vais appeler ceci, cela. » Et en fait, le mec, il se pointe et tout simplement… Ben voilà, je vous parlais du client bidule. Vous voyez, c'est un client qui est intéressant, ils sont vachement sympas. J'aimerais leur faire une remise. Est-ce qu'on peut le faire? Et en fait, le fait d'emmener comme ça le DG ou le directeur commercial, on peut faire aussi avec le DG, ben c'est vraiment intéressant parce que ça permet parfois de montrer qu'on veut avoir l'affaire et de pouvoir discuter avec le décideur. Alors, bien entendu, pour que ça marche, il faut que la personne en face de votre directeur commercial, de votre DG, soit également un décideur. D'une part, hein, et que ce soit pas la même personne, parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? Votre directeur commercial va discuter avec ce demi-décideur, hein, c'est pas le décideur final, le plus gros DG. Et donc lui, il va dire, ok, ben voilà, je vous fais une remise. Et puis après, manque de bol, ça va passer au niveau des achats du DG ou d'une autre personne, et qui va encore redemander une remise. Donc là, vous serez un peu coincé. Donc quand vous avez comme ça l'intervention du directeur commercial, généralement, il faut demander aussi d'avoir un patron du même niveau qui va intervenir, parce que comme ça, en fait, ça permet d'avoir un équilibre, en fait, et d'être sûr d'avoir une vente. Et on discute, en fait, entre DG, entre décideurs. Et clac, voilà, cette fois on peut faire quelque chose. L'autre point, alors par contre, c'est un peu plus dangereux, c'est contacter le N plus 1 ou le N plus 2 via votre réseau. Là, c'est assez sympa, c'est des techniques qui peuvent marcher, mais qui peuvent vous mettre en fait en porte-à-faux. Donc, faut vraiment faire attention avec ces techniques, mais ça marche. La première, en fait, c'est par exemple, vous êtes en mode de période scolaire, vacances scolaires ou des choses comme ça, vous pouvez prétexter que la personne soit en congé. Ça, vous le voyez quand vous avez un message d'absence. Donc, ce que vous faites, vous envoyez un message, vous vérifiez que la personne est absente ou pas, et à ce moment-là, vous pouvez appeler le N plus 1 ou parfois même le N plus 2 et lui dire, ben voilà, votre collègue est en vacances, on devait avancer sur le dossier bidule, est-ce que vous êtes au courant des informations parce qu'il y avait la promo qui s'arrêtait, etc., etc. Donc là, c'est un truc qui peut marcher parce qu'on peut débloquer une situation et parfois négocier directement avec le N plus 1. Alors attention, il ne faut pas que justement votre contact se sente court-circuité, hein. Il faut le justifier d'une manière logique et dire voilà c'est ça. Et puis après, une fois que vous avez négocié avec le DG, de dire bah ok, j'ai eu votre DG au téléphone, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et faire un mini compte rendu. Voilà. L'autre alternative aussi qui marche pas mal, et ça je l'ai déjà faite, c'est d'aller demander à ses contacts sur LinkedIn si elle connaît un dirigeant, le DG ou un directeur de l'entreprise pour savoir s'il peut lui glisser deux mots. Ça peut être intéressant. Par exemple, si vous savez en fait qu'il y a un de vos contacts qui connaît le dirigeant d'une entreprise, peut dire ouais, tiens, est-ce que je peux l'appeler de ta part ou est-ce que tu peux lui laisser un petit message? Des fois, ça m'est déjà arrivé de dire voilà, tiens, je crois que tu connais Bidule. On est en affaires, est-ce que tu peux lui donner un bonjour de ma part? Mais rien qu'un bonjour, rien que le fait de dire voilà, on est connu, on est machin, blablabla, et ensuite, lors du prochain rendez-vous, Un autre point, en fait, c'est proposer une invitation à un événement physique. Ça, en fait, ça marche pas mal dans le B2B. C'est en fait, par exemple, vous êtes dans une affaire qui est un peu coincée, voilà, ça bouge plus trop. Et ben, en fait, ce que vous faites, vous dites, voilà, ben, on organise un petit déjeuner, on organise une journée client, on organise un forum, on est présent sur un salon, etc., etc. Donc, en fait, vous allez lui dire, ben, venez nous voir, on va présenter quelque chose d'intéressant, on va présenter, par exemple, la roadmap, il y a des clients qui vont témoigner, on va avoir un expert, on va avoir un machin. Le but, en fait, c'est que la personne sorte de son cocon, sorte de son truc habituel, que vous ayez moyen de discuter avec elle, qu'elle voit en fait que vos produits sont intéressants, que ce soit pertinent, qu'il y ait des nouveautés, etc., etc., etc. Voilà, donc vous pouvez donc l'inviter comme ça à un petit déjeuner, à une journée client, et bah, vous dites, voilà, ce serait l'occasion de rencontrer par exemple des personnes techniques de chez vous, de la R&D, ou d'échanger avec d'autres clients de son secteur d'activité. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'inviter des gens à un salon et leur dire, bah, si vous voulez, après, je vous inviterai à déjeuner avec un autre de nos client qui est dans le même secteur d'activité de vous ou qui est dans un secteur d'activité un peu similaire, et vous allez pouvoir discuter de comment il fait pour faire ceci, cela. Et après, bien sûr, quand les gens ont discuté, ils ont été un petit peu rassurés, et bien sûr, si votre client qui accepte d'aller faire le déj après derrière, il est OK, et ben enfin OK, positif par vis-à-vis de vos produits, ben c'est tout bon pour vous. Voilà. Alors ma septième astuce, c'est un petit peu quelque chose de similaire, c'est d'aller proposer une visite chez un de vos clients contents, ou même envoyer le témoignage d'un client dans le même secteur d'activité. Alors parce que souvent en fait le frein pour l'achat c'est le risque que je prends à commander chez vous parce qu'elle ne serait pas adaptée à l'entreprise, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit la bonne, etc., etc. Donc dans ces cas-là, le témoignage client permet d'annuler complètement ce problème-là. Alors donc l'idéal c'est la visite sur site, c'est-à-dire que vous dites ben voilà je vous emmène ou on se retrouve chez le client ou un truc comme ça et ils vont visiter, ils voient le centre d'appel, ils voient l'usine de production, ils voient le machin, ils discutent avec le gars, on prend le café, on prend le resto puis on repart en train derrière. Donc ça en fait ça marche très fort parce que là le client il est rassuré, il voit comment ça marche, il pose des questions pratiques, c'est nickel. L'autre point, si c'est compliqué de se déplacer comme ça, vous faites l'entretien téléphonique. Alors, entretien téléphonique, c'est vous dire, voilà, tiens, on va appeler le client bidule et il va vous expliquer comment il fait. Alors, bien sûr, il vaut mieux faire une petite visio qu'un simple appel téléphonique, hein. Le but, c'est vraiment de concrétiser ça. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et puis le dernier point, bon, c'est envoyer un témoignage écrit. Bon, alors c'est pas forcément le plus efficace, hein, mais un témoignage écrit sur un client qui est content, ça permet des fois de débloquer une situation. Le huitième point, c'est d'envoyer un outil de calcul de ROI, de retour sur investissement. Parce qu'en fait, souvent, l'ennemi numéro un d'un closing, d'une affaire qui se concrétise pas, c'est le manque de pertinence. On n'arrive pas à vérifier que l'outil qu'on va mettre en place va vraiment être adapté, qu'il sera rentabilisé. Il faut décider le DG parce qu'il a d'autres investissements à faire. Donc en fait, l'objectif, c'est d'aller lui dire, OK, ben, je sais que c'est peut-être pas un investissement facile à faire. Ce que je vous propose, en fait, voilà, je vous propose un outil de calcul de ROI. Soit on s'appelle ensemble et je vous explique comment ça marche et on voit ensemble combien vous allez économiser avec notre outil ou combien vous allez gagner. Et soit vous faites tout seul et puis après on s'appelle et on fait un débrief, etc., etc. Ou alors on le présente ensemble avec DG, etc., etc. Donc l'outil de ROI est vraiment assez intéressant à ce niveau-là. Le neuvième point, c'est réduire le risque perçu pour fluidifier l'adoption. En fait, c'est souvent le cas dans les solutions à forte valeur ajoutée, où en fait, quand on va mettre en place quelque chose, ben, il n'y a pas que le fait d'acheter le produit et quelques services de mise en place. Il y a véritablement une remise en cause des processus de vente, des procédures de production, des processus administratifs, du système d'information. Et donc là, en fait, le but, c'est d'aller réduire l'adoption en proposant, par exemple, une offre d'accompagnement, une offre de service qui vont permettre de fluidifier l'adoption. C'est-à-dire que, voilà, je propose un pack de migration avec par exemple une évolution de l'ancienne solution vers la nouvelle. Je vous présente une manière de gérer le projet, ça aussi c'est pas mal. On a une gestion de projet, on a un accompagnement, vous avez un chef de projet dédié, vous avez ceci, vous avez cela. Bref, c'est vraiment quelque chose qui marche pas mal et ça permet de rassurer un client qui hésite un petit peu et qui se dit mais est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que je prends pas un risque par rapport à ce que je fais actuellement? Voilà. Alors, le 10, l'astuce 10, c'est engager un client via un nouveau canal. Alors, parfois, en fait, ça m'est déjà arrivé, ça, d'avoir des clients qui font la sourde oreille. Vous envoyez des messages téléphoniques, vous envoyez des emails, et là, c'est Waterloo Monopen. Dans ces cas-là, en fait, il faut utiliser un nouveau canal de communication. Ça m'est déjà arrivé, en fait, tout simplement d'envoyer un SMS, dire voilà, est-ce que j'ai des problèmes d'email actuellement, je me permets de vous envoyer ces messages-là, ou ben, je suis en vacances la semaine prochaine, n'hésitez pas à me rappeler avant tel truc, ou alors, moi j'ai déjà fait aussi, envoyer une carte de vœux, un courrier, des goodies en disant tiens, voilà, je vous présente la fiche produit de notre nouvelle version et je vous donne en fait un petit cadeau, un petit goodies ou quelque chose comme ça. Ça permet un petit peu de revenir et puis après, vous pouvez dire tiens, en fait, est-ce que vous avez reçu ma carte, est-ce que vous avez reçu mon colis, et de revenir vers le client, et là bah, il sera un petit sentira un petit peu obligé de vous répondre par de vous répondre par le fait de la réciprocité. Voilà. Un autre truc aussi, ça, je l'ai déjà vu, j'ai déjà fait, enfin, pas personnellement, mais je l'ai déjà vu faire, c'est changer de responsable de compte. En fait, c'est une réalité. Malheureusement, en fait, il y a des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre, il y a des caractères différents, il y a des humeurs différentes. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme dans une équipe de foot, il faut savoir parfois changer les joueurs, parce que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, et si vous faites toujours la même chose, bah forcément vous aurez toujours les mêmes résultats, et si les gens sont fâchés, bah ils resteront toujours fâchés. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est de dire ok, bah on va changer les équipes, on va changer les comptes, on va faire tourner les comptes, et en fait tout simplement, bah, le commerce, il y a un nouveau commercial qui arrive, qui reprend la relation de zéro, qui permet de repacifier des relations, qui n'a pas d'historique, qui n'a pas de relationnel, et là en fait ça permet de remarcher. Donc c'est vraiment intéressant, parce que d'une part en fait ça permet à un portefeuille de un petit peu se rénover un petit peu, de redonner un petit coup de jeune, et ça permet aussi de rappeler en fait des prospects, d'avoir un rendez-vous, etc., etc. Donc ça c'est pas mal cet aspect à changer de responsable de compte. Le 12e conseil, c'est découper le projet en étapes ou réduire le scope. Alors ça arrive souvent. Parfois, en fait, on commence à présenter un projet. Voilà. Le client a tel besoin, puis on fait une réunion, deux réunions, trois réunions, quatre réunions, cinq réunions. Et puis finalement, voilà, le scope du projet qui était simple, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Puis finalement, il y a un autre service, et puis ceci, bien cela, blablabla. Bla. Et finalement, le petit projet devient un gros projet avec des décideurs, des enjeux, des machins, des impacts qui vont être très compliqués. Dans ces cas-là, en fait, l'intérêt, c'est de réduire le scope en proposant un périmètre beaucoup plus réduit, en faisant par exemple un projet pilote sur une partie de l'entreprise, ou en faisant sur une partie d'activité, etc. Ou alors proposer des étapes, c'est-à-dire qu'on va faire une phase. Phase 1, on va faire juste ça, et on s'intéresse juste à ça, puis après, en fait, on va proposer autre chose. Ou alors, on va proposer une solution cloud qui va pas être intégrée dans le système d'information d'entreprise, en ayant un fonctionnel plus limité. Alors, un petit peu lié à ça, il y a la 13e proposition, 13e conseil, c'est tout simplement de proposer une évaluation de la solution via un POC. Un POC, c'est le Proof of Concept, hein, c'est-à-dire la réalisation à titre gratuit ou payante d'une partie du projet, dans un vrai cas, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, ben d'accord, je comprends que le produit complet va être compliqué, je sais que le projet va pas être simple à mettre en œuvre, je vous propose de faire un POC, c'est-à-dire qu'on va juste récupérer une partie des données, on va faire un truc vraiment simple, on va uniquement faire une, par exemple, je sais pas, un produit type, une petite série, etc., etc. Et ensuite, ça permettra de tester un petit peu l'appétence, de permettre aux équipes internes de se familiariser. Et ensuite, on va passer à l'industrialisation du process. Voilà, ça, c'est le POC ou la réduction du périmètre est vraiment intéressant, quoi. Le 4e conseil, c'est repenser aux parties prenantes et à leurs besoins respectifs. Alors parfois, en fait, c'est ce que je disais précédemment, à force de réunions, d'évolution, d'intégration de nouvelles personnes, bah, le périmètre fonctionnel finit par dépasser le besoin initial. Donc, dans ce cas-là, bah, tout simplement, le budget peut être important, la décision peut être ralentie, d'où l'intérêt en fait de recadrer le projet sur les fondamentaux. Donc en fait, vous vous dites, ok, voilà, je vais un petit peu me remettre à la place des interlocuteurs. Qui est vraiment le décideur? Qui va vraiment emporter la décision et quels sont leurs véritables besoins et leurs véritables freins. Par exemple, là, bah, finalement, il y a des gens de la direction financière qui se sont mis, il y a peut-être des gens de l'export, il y a des gens ceci. Comment je vais pouvoir adresser chacun de ces personnes ou utiliser des leviers ou alors écarter certaines personnes? Comment je peux les décrédibiliser en disant, bah, attendez, non, mais c'est peut-être pas forcément la bonne solution. À l'époque, en fait, il y avait IBM qui avait cette technique-là qui était. Ben, qu'il y avait une personne un petit peu qui les gênait, qui était dans le processus de vente, mais qui était un petit peu un frein à l'adoption nouvelles technologies, ben, il y avait un rendez-vous avec le boss, entre deux rendez-vous, il disait, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr d'avoir la bonne personne pour le bon job, hein? Parce que là, vous voyez, les enjeux, c'est ça, 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 ça pour l'entreprise. Et là, en fait, vous voyez, pour votre projet, on voit bien que la personne n'est pas trop au niveau. Moi, à votre place, je demanderais plutôt à quelqu'un, soit en fait à une autre personne de l'entreprise de gérer le projet, blablabla. En fait, c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans le domaine des industries un petit peu polluantes, des industries en fait du tabac, des industries des lobbies, etc., etc. Ça cherche en fait à mettre le doute, à décrédibiliser une personne. Et ça, en fait, ça peut se faire après une réunion en glissant deux mots en fait à un DG. Alors, bien entendu, il faut le faire que si la personne a déjà perdu un peu de crédibilité dans l'entreprise, hein. Il ne faut pas le faire à quelqu'un qui a toute la confiance du chef d'entreprise. Il faut le faire de manière intelligente. Et parfois, vous pouvez le dire, bah, excusez-moi, là, juste cette réunion-là, je vois qu'il y a quelques soucis avec Monsieur Bidule. J'ai un peu de doute en fait. Est-ce que vous ne voudriez pas le mettre avec une autre personne parce que cette personne comprend un petit peu plus, elle a l'air un peu plus au fait et ceci, cela. Et pas aller aussi fort que le IBM, que IBM à l'époque qui disait, est-ce que vous êtes sûr d'avoir la bonne personne pour le bon job, quoi? Mais ça c'est très américain, c'est pas très français, c'est pas facile à faire et il faut le faire de manière vraiment très subtile et il faut éviter de se mettre à la mode bourrin parce que là vous allez vous faire un ennemi dans l'entreprise. Voilà. Le 15e point, c'est revoir la proposition commerciale en simplifiant à la fois au niveau de structure de prix, d'options ou au contraire de la détaillant. C'est deux options qui sont vraiment totalement opposées mais qui sont vraiment intéressantes. Parfois en fait, bah, vous avez une offre commerciale qui peut être un peu floue, qui peut être imprécise, ou alors qui valorise pas assez l'offre parce que vous mettez pas l'accompagnement, vous mettez pas en fait tout ce que ça fait, les besoins, etc. Donc dans ces cas-là, en fait, vous pouvez faire une nouvelle proposition commerciale en disant voilà, je vous ai détaillé tout le processus d'accompagnement, vous ai expliqué aussi comment on faisait ceci, comment on faisait cela, je vous ai rajouté un témoignage, un médium, un truc chouette. Donc en fait, on va un petit peu densifier, un petit peu plus valoriser la proposition commerciale, ou au contraire, voilà, on va réduire le scope. C'est-à-dire qu'on va tout simplement dire, bah ok, il y a peut-être moins de choses, il y a peut-être moins d'options, on va pas en fait faire un devis à tiroir. Ça, en fait, je l'ai vu souvent. Alors on se retrouve avec une proposition commerciale, avec 15 options, avec ceci, avec cela, et puis on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Et à ce moment-là, moi ça m'est arrivé de faire ce qu'on appelle des offres early birds. C'est-à-dire que tout simplement, je dis ok, bon, on oublie tout ce qu'on a vu auparavant. Moi, je vous propose un forfait tout compris. Vous voyez, vous avez pour X milliers d'euros, voilà, ou pour 10 000 euros, vous avez un nombre illimité de users, vous avez la formation, vous avez ceci, vous avez cela, voilà, et on n'en parle plus, c'est tout complet, il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de machin, et on parle là-dessus. Parce que parfois, en fait, moi j'ai déjà vu ça dans le cas de vente d'applications. Bah, les gens disaient non, mais on va faire une méthode agile. Au début, on va faire tel lot, tel lot, tel lot, puis après, on verra pour ceci, cela. Bah, des fois, parfois, on se dit ok, maintenant, bah, je fais un forfait, ok, mon forfait. Fait c'est temps et vous êtes sûr vous payez pas plus cher. Voilà, ça permet de débloquer une vente, ça marche vraiment très bien, je l'ai déjà fait plusieurs fois. L'autre point aussi, ça je l'ai fait aussi, ça m'est arrivé avec l'équipe commerciale, c'est faire un brainstorm en fait avec le marketing, avec les équipes techniques, etc., etc., les avant-ventes, pour partager des bonnes pratiques et des idées pour débloquer une vente. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que y a un commercial, il est bloqué pour une affaire, et puis après, et puis il nous dit, bah voilà, j'arrive pas à faire signer Bidule. Et puis quand on est dans la réunion commerciale, quand il y a un peu tout le monde, on se dit, bah ouais, mais attends. Regarde, tu pourrais parler de ça, puis moi je pourrais faire ça, puis peut-être qu'on peut faire évoluer le prix, peut-être qu'on peut faire évoluer les services, etc., etc., etc. Et parfois, avec cette réflexion commune et en faisant évoluer un peu les choses, en travaillant de manière un petit peu agile, on arrive à faire débloquer une situation, et j'ai vu ça plusieurs fois. Le dernier point, l'astuce numéro 17, après je vous présenterai trois autres points dans une autre vidéo. C'est faire intervenir une personne de l'extérieur pour débloquer une situation. Parfois, surtout dans les rencontres, en fait, on a un blocage parce que le prospect a un doute. En amont de l'acte d'achat, il se dit, mais est-ce que le produit est adapté? Est-ce qu'il répond à ses spécificités? Il a un peu la trouille parce que c'est quelque chose qui est vraiment un risque important pour lui, pour sa carrière, pour l'entreprise. Donc, dans ces cas-là, en fait, ben, il peut dire, ben, il peut être intéressant de faire appel à un consultant extérieur qui vient faire un audit, un cahier des charges, ou qui vient sécuriser le client en travaillant sur les besoins, etc., etc. Et Et là, en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça permet comme ça d'avoir une vision un petit peu externe, normalement une vision qui est quasi impartiale et qui permet en fait d'aider le client, l'aider à choisir. Alors, bien entendu, vous allez mettre en avant un consultant qui est indépendant mais qui est bon, plutôt favorable à vos produits et qui viendra après à planir un peu la situation. Voilà, et ça, moi, je l'ai déjà vécu et je l'ai déjà fait. On travaillait des fois avec des cabinets consultants extérieurs qui étaient multi-produits, hein, mais qui, bon, était plutôt teinté sur nos produits à nous et qui permettait ainsi de faire un cahier des charges, de répondre, de faire du conseil sur les produits, de la veille, etc., etc. Donc ça marche quand même pas mal et c'est une bonne technique qui permet souvent de débloquer une situation. Donc voilà, je vous ai présenté les 17 conseils, astuces, méthodes, techniques qui permettent de débloquer une vente. Et dans la deuxième partie, je vais vous présenter les outils qui vont permettre aussi d'être plus efficaces. Allez, à bientôt!